Et tout de suite, vous avez reconnu le générique de Histoire d'archives avec nous aujourd'hui, Laure Franek, directrice adjointe des archives départementales.
Bonjour Odile,
bonjour
aux auditeurs.
Alors moi je suis ravie de vous recevoir, c'est un jour un peu différent de notre rendez-vous habituel.
Tout à fait.
Mais c'est pareil, on va retrouver autant d'histoires.
Voilà, alors c'est vrai qu'on a un petit peu décalé le rendez-vous pour cause d'absence demain, voilà, mais... Comme dit Odile, nous allons raconter des histoires d'archives et surtout annoncer notre rentrée culturelle, hein, puisque la rentrée a eu lieu pour tout le monde, y compris pour les archives départementales. Alors, la première actualité, ce sont les Journées européennes du patrimoine qui vont avoir lieu ce week-end partout en France, et y compris dans notre département. Pour ce qui est des archives, Monsieur Labadie, le directeur des archives départementales, fera une conférence ce vendredi à 18h, l'entrée est libre comme d'habitude, sur les jouets. Parce que vous savez que nous avons une importante collection de photographies conservées aux archives départementales, et notamment des photographies prises par des photographes professionnels qui faisaient poser les familles et les enfants. Et souvent, dans ces ateliers, il y avait des jouets, accessoires, à disposition des jeunes enfants, leur permettant un peu de se donner une contenance devant l'appareil photographique, et puis surtout d'affirmer leur statut d'enfant. Peut-être que certains aussi venaient avec leurs propres jouets, mais on sait que dans ces ateliers, il y avait des accessoires, pour les adultes aussi d'ailleurs, hein. Il y avait des tables, des chaises, des sortes de prie-dieu pour permettre aux gens de maintenir la pose assez longtemps. Voilà. Et donc, M. Labadie s'est livré à une analyse de toute une série de ces photographies de la fin du 19e siècle, pour examiner un petit peu les jouets qui étaient mis en avant dans ces photographies, et souvent entre les mains d'enfants de milieux modestes. Voilà, donc... Et alors, il y a évidemment ces photographies de photographes professionnels, mais il y a aussi toutes les photos, j'allais dire, du quotidien, prises sur le vif. Alors évidemment, ce n'était pas les familles... pauvres qui pouvaient se permettre de faire ces photographies, mais nous avons des photographes dans le département qui, dès la fin du 19e, ont sillonné les villages, et sur certains de ces clichés, en cherchant bien, en examinant un petit peu dans les recoins, on peut voir des jouets qui traînent. Voilà. Et donc c'est à cette analyse que va se livrer Monsieur Labadie, donc ce vendredi à 18h.
Aux archives,
aux
bien
archives
sûr.
Départementales, voilà, la salle de conférence.
Rue du Trélus.
Rue du Trélus, tout à fait. Ensuite, le lendemain, toujours M. Labadie, là, il assure l'intégralité de l'animation des Journées européennes du patrimoine pour les archives départementales. Il ira à Saint-Benoît, aux confins du département. Les archives départementales ont publié l'année dernière une monographie sur ce village, qui s'appelle Trace. Hein. Donc, c'est une monographie qui évoque l'histoire de ce village depuis la préhistoire jusqu'à nos
quel
jours.
Village, pardon ?
Saint-Benoît.
Saint-Benoît. Ah, Saint-Benoît. D'accord, c'est à Saint-Benoît.
Saint-Benoît, tout à fait.
Il est où, ce village ?
Il est aux confins, vraiment, on est presque dans les Alpes-Maritimes. Hein. Il est au-dessus d'Entrevaux, vraiment, quand on va vraiment, au-delà d'Anote, j'allais dire. Voilà, et donc le village, alors ce livre a été publié, enfin écrit par M. Siey, qui est un natif du village, qui poursuit actuellement une carrière dans l'éducation nationale, à l'inspection académique, mais dans un autre département. Et il a accumulé énormément de connaissances, dépouillé beaucoup d'archives, fait beaucoup de terrain aussi, dans son village et autour de son village. Et donc, il avait écrit cette monographie qu'il nous a proposée en publication. Nous avons accepté, car c'est un écrit de grande qualité. Et dans le cadre des Journées du patrimoine, M. Siey, qui est donc l'auteur, organise avec la commune de Saint-Benoît vraiment toute une journée de festivités. Et il a invité M. Labbadie à venir donner une conférence. Alors, ça ne portera pas sur le village de Saint-Benoît directement. On laisse ça à monsieur Sieille. Mais M. Labbadie, lui, va parler d'Hanotte et de la région d'Hanotte sous le joug allemand entre 1943 et 1944. Voilà, un petit focus sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais le programme est bien plus étoffé. Donc là, j'invite les auditeurs à se tourner vers le site internet de la ville du village de Saint-Benoît qui devrait en annoncer plus. Voilà. Et ensuite, pour terminer, pour les journées du patrimoine, le dimanche, cette fois, retour à Digne-les-Bains, toujours avec M. Labbadie, le directeur des archives, qui fera une visite guidée de l'exposition en cours à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains sur Sénèze, un ancien évêché de Haute-Provence. C'est les derniers jours de l'exposition. Hein, l'exposition.
Donc, qui se passe où, ça ?
À
la cathédrale.
À la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains.
Ah, Saint-Jérôme.
Voilà, Saint-Jérôme, oui. Hein. Vous savez, on a tous les étés, nous exposons, réalisons une petite exposition et surtout un petit journal que nous diffusons gratuitement sur un sujet de notre choix. Et cette année, nous avons évoqué l'ancien évêché de Senez parce qu'il y avait, ça nous a permis de collaborer avec le service départemental d'archéologie qui a fait des fouilles programmées sur l'ancienne cathédrale, puisque Senez était jusqu'à la Révolution française un évêché, dissous ensuite. Mais la cathédrale est toujours là, depuis devenue simple église paroissiale, mais qui conserve une histoire riche. Et donc le service départemental d'archéologie a fouillé non seulement la nef, mais aussi les cimetières attenant à l'église. Donc il y a tout un article dans le petit journal qui est diffusé sur cette partie-là. Nous avons aussi une jeune étudiante qui a évoqué les peintures murales, parce qu'en fait, quand l'église a été reconstruite, on a fait ce qu'on faisait souvent autrefois, hein, c'est-à-dire qu'on détruisait simplement l'ancien édifice en laissant les débris sur place pour reconstruire un nouvel édifice. Or, l'édifice du haut Moyen-Âge est disposé de peintures murales dans la nef. Et donc, dans la partie qui a été fouillée, qui correspond grosso modo à la moitié hein, du chœur, et un morceau de la nef, il y a comme un puzzle géant avec tous ces petits débris de peintures murales. Voilà, et puis, comme d'habitude, nous avons exposé des objets religieux appartenant à l'ancienne cathédrale et évoqué la figure remarquable de Jean Soanen, cet ancien évêque de Senez, janséniste, rigoriste et sacré personnage. Voilà, donc Monsieur Labbadie fera une visite guidée, parce que vous savez que la chapelle n'est pas très grande, donc les gens nous disent toujours, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais en fait, on ne peut pas mettre beaucoup d'objets, en fait. On choisit toujours une belle peinture, quelques objets, des photographies que l'on reproduit, mais on est limité, on ne peut pas non plus entasser. C'est pour ça que le petit journal arrive en appui, donne beaucoup d'informations. Et là, le fait d'avoir M. Labbadie qui guidera la visite, ça donnera de la chair et du corps à cette exposition. Voilà, donc ça sera dimanche.
Donc, et à la cathédrale Saint-Jérôme,
à Digne. Et il y a deux départs de visite à 15h et 16h30. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Voilà. Justement, alors j'annonce, hein, c'est un peu chronologique, hein, mais là, comme on va publier, il aurait dû être déjà en ligne, mais il le sera bientôt, notre programme donc de septembre à décembre 2019. Eh bien, dans la foulée des Journées du patrimoine, le 26 septembre, nous invitons justement Monsieur Sieille, l'auteur de la monographie sur le village de Saint-Benoît. Et là, lui, il va se concentrer sur la période du village au XIXe siècle, hein, avec les dépouillements que M. Sieille a pu faire sur les recensements, le cadastre napoléonien, les sources judiciaires, les sources policières, les inventaires après décès. Il a vraiment fouillé tout ce qu'il a pu trouver sur Saint-Benoît dans notre collection aux archives départementales, hein, puisque les petites communes ont l'obligation de déposer leurs archives anciennes aux archives départementales. Hein, c'est une obligation. Donc les archives les plus anciennes se trouvent en théorie, parce qu'il y a quand même certaines communes qui gardent quelques archives anciennes, mais la plupart du temps, elles sont chez nous. Et c'est vrai que d'exploiter ces archives sous l'angle territorial, c'est-à-dire monographique sur un territoire, ça permet vraiment d'appréhender beaucoup de sujets tels que l'école, la police, le problème de l'entretien des bâtiments civils. Ça permet vraiment de faire le tour de la question. Et ne serait-ce que les délibérations. Hein. Dans les délibérations des communes, on trouve une foule d'informations et les registres les plus anciens sont en général chez nous. Voilà, donc ça, ce sera M. Sieille. Le village de Saint-Benoît au XIXe siècle, qui viendra aux archives départementales jeudi 26 septembre à 18h.
Donc il fera une conférence.
Une conférence, oui, tout à fait. Voilà, ensuite on continue avec le programme des conférences. Là on passe au mois d'octobre. Nous avions reçu avant l'été Madame Homps, la directrice du musée de la Vallée à Barcelonnette, qui nous avait fait une très belle présentation sur l'émigration des Ubaïens dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, avec notamment tout un aperçu sur l'architecture, aussi bien dans l'Ubaï, mais aussi au Mexique. Et elle nous a proposé, puisqu'elle est en relation avec de nombreux chercheurs qui travaillent sur le domaine de l'émigration ubaïenne, elle nous a proposé deux autres conférenciers. Nous recevons Laura Fossati, qui est chargée du projet de recherche sur l'histoire de l'immigration piémontaise en Ubaï, qui est un projet qui est porté par le Musée de la Vallée et l'association Sabencia de la Valleja, connaissance de la Vallée. Et donc, elle va présenter, elle, l'histoire des Piémontais. Hein, donc, on ne sait plus les Ubaïens qui partent dans le Nouveau Monde, mais cette fois-ci, ce sont les Piémontais qui viennent des vallées voisines de la frontière, la vallée notamment Stura de Demonte, Valle Maira, Valle Grana et Valle Varaita. Et Vallée Vermetania, et ça me sont toutes ces belles vallées que je ne connais pas malheureusement. Donc j'espère que Madame Fossati nous fera rêver aussi. Et donc elle va nous parler de cette migration qui était, comme les salles des Ubaïens d'ailleurs, une migration économique. Hein. Pourquoi ces Piémontais franchissaient-ils les Alpes pour venir en Ubaï? Quelle profession avait-il? Quel savoir-faire pouvait-il exploiter? Et comment certains sont devenus français, finalement, en choisissant définitivement de s'installer en Ubaï, hein, puisque les Italiens ont longtemps été la première population étrangère accueillie dans le département. Voilà, donc Madame Fossati évoquera le contenu des dossiers de demande de naturalisation qui sont conservés aussi aux archives départementales. Donc c'est des dossiers qui couvrent la période 1820-1938. Et elle va en plus partager des témoignages qui sont recueillis auprès des familles ubaïennes qui sont d'origine piémontaise. Voilà, donc ça, ce sera Jean de l'Ubaï, Jean du Piémont, parcours migratoire sur la frontière franco-piémontaise, 1850. Et elle ira jusque dans les années 1950 et ça aura lieu le jeudi 10 octobre à 18h toujours aux archives départementales. Et ça, c'est la poursuite donc de ce petit cycle sur l'Ubaï. Et il y aura un autre intervenant qui viendra cette fois-ci en 2020. Donc je l'annonce déjà, même si c'est très très en avance, qui lui viendra nous parler de l'immigration des Ubaïens, cette fois-ci en Louisiane, parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler des Mexicains. Mais en réalité, les Ubaïens et plus généralement les bas alpins, parce qu'on sait, c'est quand même mieux étudié aujourd'hui que cette migration n'était pas que du fait de l'Ubaï, eh bien, il y a aussi des bas alpins qui sont partis aux États-Unis et notamment en Louisiane et qui ont fait souche. Hein. Je crois que c'est à cette antenne que je racontais qu'avant l'été, nous avons reçu aux archives départementales toute une famille d'Américains qui venaient sur la trace de leurs ancêtres. Et eux, c'était justement deux frères de l'Ubaï qui étaient partis aux États-Unis et qui ont fait souche. Et donc les descendants, qui sont parfaitement américains, sont venus en famille. il y a vraiment un tourisme des racines, hein, on en a déjà parlé aussi. Et ils sont venus retrouver la demande de passeport et voir un peu exactement d'où venait leur grand-père. Voilà, donc ça sera en 2020 et voilà, ça sera la fin du cycle sur la migration dans la vallée et depuis la vallée de l'Ubaye.
Juste un petit, j'étais en train de noter en même temps, jeudi 10 octobre, donc une conférence à 18h.
Oui, avec Laura Fossati.
Laura Fossati, voilà. Sur la migration.
Alors c'est Jean de l'Ubaye, Jean du Piémont. Parcours migratoire sur la frontière franco-piémontaise, 1850-1950. Voilà, et après nos conférences sont toujours en théorie, mais à 18h, et c'est toujours les jeudis soirs.
Hein,
on a sanctuarisé ce jour-là pour notre programmation culturelle. Voilà. Ensuite, une lecture d'archives. Hein, parce que vous savez que depuis un des prédécesseurs de M. Labbadie, Mme Hirsch, qui avait inauguré ces lectures d'archives, il y a de ça maintenant... je pense qu'on est au moins il y a plus de 15 ans. Donc l'idée est de donner à entendre des archives. Bon, les archives font un peu peur aussi, hein, elles sont souvent mystérieuses pour le public qui n'est pas averti. On voit quand on reçoit des gens en salle de lecture, ils sont quand même très démunis par rapport à comment chercher, quoi trouver, qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans les archives. Certains pensent qu'on ne trouve rien. Ils s'aperçoivent qu'on trouve des choses. Certains pensent qu'on peut tout trouver, ce qui est faux aussi. Voilà. Certains n'ont pas une idée très claire de ce qu'ils cherchent. Donc, du coup, ils ont du mal à trouver. Voilà, donc ça, je fais un peu la publicité de notre service. Hein. Le service et les agences sont là pour ça. C'est-à-dire que notre salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Et il y a ce qu'on appelle un président de salle de lecture, qui est l'un des cadres du service et qui reçoit le public, qui l'accompagne dans ses recherches quand ce public n'est pas autonome et est un néophyte, hein, ce qui est souvent le cas. Voilà. Pas toujours, mais souvent. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Des fois, nous aussi, on tâtonne. Hein. Je rappelle que nous avons 10 km d'archives avec de multiples entrées pour pénétrer dans ce dédale. Donc, on a des outils pour ça.
J'imagine qu'il y a des archives qui sont protégées, oui. Où tout le monde n'a pas accès à tout.
Bien sûr, sur les 10 km d'archives, nous avons ce qu'on appelle des délais de communication d'archives à respecter. Bon, pour faire court, qui protège en réalité la vie privée, le secret médical, les mineurs. Hein, les mineurs sont très protégés par les usages de communication des archives. Donc oui, bien sûr, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a aux archives n'est pas communicable. Après, quelqu'un peut demander ce qu'on appelle une dérogation. Il doit faire une demande officielle qui est transmise à la fois au procureur de la République et au service interministériel des archives de France. C'est très sérieux, très contrôlé. Le directeur des archives départementales donne aussi un avis technique sur cette demande de dérogation qui est accordée en général pour des recherches historiques. Éventuellement, voilà, dans des cas de justice, voilà. Mais bon, c'est pour ça que le procureur a son mot à dire, parce que quand il y a vraiment des dérogations, c'est-à-dire qu'on est sur des délais de communication raccourcis, et là, il y a vraiment un enjeu souvent de justice. Donc voilà, donc c'est possible, hein, c'est possible, mais il faut faire une demande. C'est pas parce qu'on vient aux archives qu'on peut tout voir, mais on trouve beaucoup de choses. Les gens sont souvent étonnés finalement de quand on sait comment chercher. De ce qu'on peut trouver. Voilà, donc du coup, je me suis parfaitement égarée, mais j'étais partie sur les lectures d'archives. Voilà. C'est aussi pour expliquer pourquoi Mme Hirsch, à l'époque, avait souhaité finalement montrer d'une autre manière les archives, qui sont l'antre de l'écrit. Mais l'écrit, ça peut s'écouter aussi. Donc, sur des thèmes précis, avec des comédiens professionnels, les archives proposent les thèmes, proposent tout un choix d'archives à ces comédiens qui choisissent ensuite... eux-mêmes des extraits et surtout proposent un enchaînement, en général chronologique, avec un peu de dramaturgie, pour donner à entendre ces archives. Et donc là, la prochaine aura lieu. Alors souvent, ce sont des lectures qu'on décentralise, qu'on fait hors les murs, puisque l'idée est d'aller un petit peu dans tout le département pour donner à entendre ces archives. Et donc la prochaine aura lieu à Sauce. Ce seront les comédiens de la Mobile Compagnie hein, qui feront la lecture de ce florilège d'archives. Et la thématique, ce sera la vie rurale à Sauce, dans le prolongement de la publication que nous avions faite il y a 2 ans maintenant hein, sur la vie rurale en Haute-Provence. Et donc, à partir de ce livre, on l'a décliné quand les communes en font la demande en lecture d'archives. Et là, ce sera donc jeudi 17 octobre à 18h à Sauce. Là aussi, l'entrée est libre. Voilà. Peut-être un petit peu de musique pour
couper. Ben voilà. Voilà.
Donc, comme c'est la rentrée, j'ai choisi un morceau énergique, une reprise par Sonic Youth, du morceau très énergique aussi, chanté par Plastic Bertrand. Ça plane pour moi.
Et on revient avec Histoire d'archives et Laure Franek après ce morceau électrisant, dynamisant.
Oui, voilà, c'est sûr que c'est un peu sans transition parce que nous allons évoquer les conférences du mois de novembre qui évidemment sont, on ne peut pas éviter la commémoration du 11 novembre. Donc nous allons faire une conférence proposée par M. Labbadie sur les monuments aux morts basalpins de 1914-1918, car le service est en train de préparer une publication exhaustive sur l'ensemble des monuments aux morts dans le département. C'est une publication qui devrait voir le jour en 2021. Donc M. Labbadie travaille activement sur ce thème, tant sur évidemment les prises de vue dans tout le département pour avoir un reportage photographique complet, mais aussi travailler sur les dossiers que nous conservons. Vous savez que les monuments aux morts sont vraiment... ont fleuri, si on peut utiliser ce terme-là, après la guerre 14-18. Hein, même si certains monuments aux morts commémorent aussi la guerre de 1870, c'est vraiment la guerre 14-18 et l'hécatombe humaine qui a déclenché ce grand mouvement commémoratif qui marque encore aujourd'hui tous les paysages. Il n'y a pas une commune où il n'y a pas
un monument,
une plaque, voire plusieurs. Et c'est ce que évoquera M. Labbadie, c'est la typologie des monuments, depuis les plaques, les monuments dans les églises, enfin les plaques dans les églises, les monuments dans les cimetières, en dehors des cimetières, sur les places, pas dans les places, et tous les débats qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale sur où mettons le monument. Qui inscrit-on sur le monument ? Quel monument fait-on ? De quel argent on dispose ? Voilà, donc tous ces débats sont vraiment passionnants à l'échelle de la vie des petites communes. Et évidemment, en arrière-plan, il y a le drame humain de quand on voit des tout petits villages avec en pourcentage, hein, c'est énorme. Des fois, les noms qui figurent sur les monuments, on mesure l'impact que cette guerre a pu avoir. Donc ça, ce sera le jeudi toujours, 7 novembre, à 18h, les monuments aux morts basalpins de 1914-1918. Ensuite, nous repartons avec l'immigration italienne, mais cette fois-ci, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas dans la vallée du Bail, mais dans la vallée de la Haute-Bléone. Ce sera une lecture d'archives qui aura lieu à Marcous, à la salle polyvalente Saint-Michel, le dimanche 10 novembre à 11h cette fois, donc c'est matinal. Et donc là, c'est une lecture d'archives, hein, proposée aussi par la Mobile Compagnie, enfin, proposé par les archives départementales, mais mis en parole et en geste par la Mobile Compagnie, qui évoquera donc ces Italiens qui sont venus dans la vallée de la Haute-Bléone au XIXe et au XXe siècle. Pour terminer sur le cycle des conférences qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année, je voudrais tout de suite faire l'annonce d'une annulation, celle de la dernière conférence. Je le dis parce que le programme a déjà été publié, maquetté. Nous allons faire l'annonce de l'annulation sur notre site internet, mais tous les dépliants qui vont être diffusés, on va essayer de les corriger de manière manuelle, mais on ne peut pas rééditer un nouveau dépliant. On vient d'apprendre que malheureusement, M. Olivier Faure, qui était déjà venu nous parler des officiers de santé au XIXe siècle, donc ça, il était venu il y a plus d'un an, et qu'il devait nous parler de la genèse de la question vaccinale en France, avec l'expérience antivariolique en France au XIXe siècle, malheureusement, ne peut pas venir. Donc ce sera l'annulation de notre dernière conférence. Nous espérons bien pouvoir inviter en 2020 M. Faure, hein, qui est un historien éminent, spécialiste de toutes les questions liées à l'histoire de la santé, l'histoire des hôpitaux, qui a été longtemps professeur à l'Université de Lyon. Voilà, nous espérons bien qu'il pourra venir en 2020 nous parler de cette question passionnante qui est vraiment d'actualité.
Rappelez-moi la date de l'annulation.
Alors, c'est le 14 novembre. Jeudi 14 novembre, voilà. Cette conférence n'aura pas lieu.
D'accord.
Voilà. Alors, sinon, toujours aux archives départementales, l'exposition sur l'affaire de Lurs, hein, le procès des Dominici et le meurtre de la famille Drummond du 4 août 1952 est toujours visible. Elle sera visible jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc les gens ont le temps d'aller la voir. Le catalogue toujours en vente aux archives départementales et chez quelques libraires qui ont souhaité en disposer. Voilà, c'est une exposition qui marche très bien, qui intéresse beaucoup les gens, qui suscite un petit peu de débat aussi, hein, parce qu'évidemment, certains trouvent que c'est un peu dommage de revenir sur ce sujet-là. Après, toujours ce qu'on rappelle, c'est que nous n'avons pas choisi de traiter la question de l'innocence ou de la culpabilité. D'ailleurs, le dossier judiciaire n'est pas communicable et nous ne l'avons pas utilisé pour les archives, pour l'exposition, mais vraiment d'utiliser cette affaire, parce que ça a vraiment été une grande affaire judiciaire, un procès vraiment retentissant, et pas seulement en France, qui a, vous savez, depuis ce procès, les audiences ne sont pas publiques, pas ouvertes à la presse, hein, parce que justement, on s'est rendu compte du dérapage possible du fait d'inviter que les journalistes soient présents et couvrent en direct avec les photographies, etc. C'est vraiment le début de la médiatisation des affaires judiciaires et du revers de la médaille que ce que ça suppose. Il y a d'autres grandes affaires judiciaires qui ont provoqué d'autres aménagements dans l'application de la justice en France, mais l'affaire de Minici est vraiment un marqueur très important et pour le personnel judiciaire, ça fait partie de leur histoire et pas seulement sur le contenu de l'affaire. Donc nous avons vraiment choisi d'aborder cette affaire sous cet angle, l'angle judiciaire et l'angle médiatique aussi, puisque ça a vraiment été une affaire extrêmement médiatisée, avec, comme je l'ai dit, les revers de médaille que ça a supposé. Et aussi le fait que ça a été tellement médiatisé qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur la scène du crime, que la scène du crime a été piétinée très rapidement. Voilà, on ne disposait pas des mêmes protocoles qu'aujourd'hui. Et voilà, on peut penser qu'aujourd'hui, cette affaire aurait été résolue plus facilement et plus rapidement que le traitement dont elle a bénéficié à l'époque. Voilà, donc ça jusqu'en fin 2020, avec quand même le clou de l'exposition, hein, c'est la reconstitution de la salle d'audience de l'époque, des années 50, hein, qu'on a remontée intégralement avec le mobilier d'origine aux archives départementales. C'est une des raisons pour laquelle cette exposition va rester longtemps, parce que ça a quand même demandé un gros dispositif de montage. Et voilà, on souhaite en profiter longuement. On fera, en 2020, on va utiliser d'ailleurs cette salle d'audience pour faire une lecture d'archives relative aux faits divers qui a déjà eu lieu aux archives départementales, qui était vraiment extraordinaire, qui est vraiment, vraiment très poignante, parce que les faits divers, c'est pas que des faits divers, hein, c'est derrière, il y a des histoires de vraies personnes. Et nous avons souhaité pouvoir la reprogrammer dans la salle d'audience, histoire de donner un cadre qui soit raccord avec le sujet. Aussi, donc l'exposition Senèse, un évêché provençal, les origines à la Révolution, à la cathédrale Saint-Jérôme des Bains, où M. Labadie fera donc la visite guidée ce dimanche. Là, ça va s'arrêter au 30 septembre. Donc, si vous n'y êtes pas allé, allez-y vite. Si vous n'avez pas récupéré le catalogue, allez-y, il en reste un petit peu. Sinon, tous ces petits journaux sont téléchargeables ensuite gratuitement sur notre site pour information. Et je termine par la grande nouvelle, si on veut. Il y a cette exposition qui marche vraiment très bien aussi dans nos locaux, qui est consacrée à la Haute-Provence au gré du temps. Vous savez, nous avons, les deux médiatrices du service culturel ont parcouru le département et à partir des photographies anciennes du 19e ou des cartes postales du début 20e, sont parties dans les villages et ont retrouvé le même angle pour photographier le même angle, la même prise de vue à un siècle au moins de distance. Donc, c'est un procédé qui s'appelle la rephotographie. Il y a aussi un joli nom qui s'appelle la photolalie, qui est moins connu. Et ça permet de mesurer, évidemment, l'évolution des paysages, mais aussi les permanences. Parce qu'en fait, en réalité, dans notre département, il y a eu évidemment beaucoup de changements, mais il y a aussi une grande permanence des paysages. C'est un département qui est peu peuplé, donc finalement, au niveau du bâti notamment, il n'y a pas forcément eu beaucoup de bouleversements. Ce qui a surtout changé, c'est la signalétique, l'impact des voitures et la végétalisation. En réalité, les arbres, le végétal est beaucoup revenu dans notre département par rapport au 19e, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Dans nos départements, je ne parle pas des villes, etc. Voilà. Et donc cette exposition plaît énormément et nous avons souhaité en faire une publication qui ne sera pas que des photographies, qui sera assortie de notices rédigées pour l'essentiel par des agents du service, mais on a souhaité aussi s'adjoindre les services de personnalités du département, comme un archéologue du département qui va nous parler de Riez et de Castellane, la conservatrice du musée de Colmar-les-Alpes qui va nous parler de son village, l'archiviste de Manosque qui va parler de sa ville. Voilà, donc on a fait appel à quelques collaborateurs extérieurs. Et cette publication, dont le titre n'est pas encore affirmé, nous sommes en train d'y travailler, sera publiée avant Noël. Voilà, donc à mettre dans la liste des cadeaux de Noël. Voilà, non, c'est un beau projet, c'est un projet qui répond vraiment à la demande des gens, parce que c'est pas une publication scientifique au sens universitaire du terme, hein. C'est vraiment là aussi où on est dans raconter des histoires et comment les archives et les photographies peuvent permettre de raconter des histoires. Alors, nous sommes quand même des historiens et des archivistes, donc on ne raconte pas des sornettes. L'intérêt, c'est de pouvoir à la fois utiliser la photographie ancienne, la photographie actuelle, et de retourner dans nos archives en tirant des petits fils comme ça pour raconter une histoire. Donc ça va être l'histoire de la fontaine de Fort-Calquier, l'histoire de la maison d'école de tel village, l'histoire de la gendarmerie de Mézel, l'histoire du pont dans tel autre village, le jour où Napoléon est passé à Maligé. Oui, c'est sous cet angle quand même assez ludique, et en même temps montrer aux gens, parce que ce sont des notices qui sont sourcées, hein, jargon, c'est-à-dire qui renvoient toujours à des codes d'archives, montrer justement comment on peut utiliser nos archives, et peut-être susciter des vocations de chercheurs, parce que je rappelle, les archives sont vraiment ouvertes à tous. C'est vrai que les gens se peuvent pas être un petit peu intimidés. En plus, nous avons un bâtiment qui est quand même assez imposant, qui peut intimider. Mais c'est l'ambition qu'avaient poursuivi les révolutionnaires, hein. C'est de créer des dépôts d'archives. C'était permettre à tout citoyen d'avoir accès à l'histoire de son pays, de sa nation. Et nous sommes les héritiers directs de ça. C'est pour ça que c'est un service entièrement gratuit, je le rappelle. Voilà, sauf si, évidemment, les gens nous demandent des photocopies ou des numérisations en masse. Mais c'est un service gratuit. Les gens ne payent pas pour entrer chez nous, même pas pour la carte de lecteur, comme on peut le faire dans certaines bibliothèques. Voilà, donc c'est à la fois des archives. Et d'ailleurs, nous avons aussi une bibliothèque qui est aussi en accès. Les gens ne peuvent pas emprunter les livres, mais ils peuvent les consulter sur place. Donc vraiment, j'invite tout à chacun, peut-être justement en lisant l'ouvrage sur la Haute-Provence au gré du temps, à avoir envie finalement de pouvoir lui aussi travailler sur son histoire, l'histoire de sa maison, l'histoire de son village, l'histoire de sa famille. Hein. Les généalogistes, c'est ça qu'ils font, ils travaillent sur l'histoire de leur famille et ce faisant, ils racontent l'histoire du département. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. J'espère déjà pour les journées du patrimoine que vous viendrez nombreux. Écoutez, Monsieur Labadie, sur les jouets, ça va être
ça va être très intéressant, ouais. Et vraiment sympa. On aime bien. Enfin, moi personnellement, j'aime bien voir les vieux jouets.
Oui, ouais. C'est. Il y en a certains. On a regardé là des petits moutons, des petits chevaux, des instruments de musique. Non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, à bientôt, chers auditeurs. Merci Odile de me recevoir.
De rien. Et puis on rediffusera peut-être dès cet après-midi cette émission.
Très bien.
Et puis, à très bientôt, Laure.
Merci Odile. Merci. Au revoir à tous.
Au revoir.